RCF.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Croyants ensemble vers la paix. Je vous propose aujourd'hui de partager avec nous un des temps forts que nous avons vécu lors du deuxième forum du Vivre Ensemble à Cannes, qui a eu lieu à l'espace Miramar le 5 novembre dernier. Ce forum avait pour thème « Vivre ensemble dans la cité, la fraternité en marche ». C'est à cette occasion que Yaya Sikudianka, auteur du livre « Un petit baobab pour vivre ensemble », est venu nous partager son expérience du vivre ensemble et du dialogue interculturel. Yaya, bonjour.
Bonjour Claire.
Donc vous êtes sénégalais et vous vivez en France depuis plus de 25 ans. Vous êtes également engagé politiquement dans la promotion du mieux vivre ensemble. Vous êtes un élu des Yvelines. Alors Yaya, si vous permettez que je vous appelle Yaya, racontez-nous un peu votre histoire. Vous êtes en tout cas un homme heureux, mais j'aimerais savoir un peu votre parcours, votre village au Sénégal, vos racines.
D'abord, je voulais saluer vos auditeurs et saluer aussi toutes les personnes qui œuvrent pour la paix. Ça, c'est très important pour moi. Bien sûr, je viens du Sénégal. Donc, entre le Sénégal et la France, on a des liens historiques, des liens économiques, des liens culturels. Mon village sénégalais, donc, se trouve au nord, à la frontière avec la Mauritanie et le Mali. Je suis né dans un village Peul, donc, plutôt pastoral. Nous cultivions beaucoup les terres. Dans mon village, il y avait la forêt, il y avait des animaux, voilà. Nous avions des lions, des phacochères, des chacals. Nous avions aussi plein de marigots. Je dis nous avions parce qu'aujourd'hui, il n'en est rien. Je suis né dans une famille de forgerons bijoutiers. Dans mon village, nous avions de tout, des paysans, des boisseliers, des tisserands, des potiers, des bergers. Et c'était le travail de chacun qui faisait la cohésion du village. Donc, je suis né dans une famille, dans un village où tout, on avait plein de richesses, pas matérielles, mais humaines. Chacun d'entre nous avait la place dans ce village. Et c'est ainsi que j'ai été d'abord à l'école française, ensuite à l'école coranique. Ensuite, je suis allé au lycée à Saint-Louis. Alors, je rappelle pour vos auditeurs que Saint-Louis, c'était la capitale de l'Afrique occidentale française. J'ai encore souvenir de la statue de Faidherbe, qui est sur la place de la mairie à Saint-Louis. Et puis après, je suis arrivé en France en 1984 pour faire des études d'informatique. Ma première année, j'ai passé toute l'année à pleurer parce que j'étais tout seul devant mon PC. Et en deuxième année, je suis allé m'inscrire à l'école des hautes études en sciences sociales. J'ai un DEA de sciences de l'éducation. Je suis expert en sciences de l'éducation et je suis bien heureux de contribuer à la bonne marche vers la paix.
Alors là, Yaya, vous nous avez dit que vous venez d'un petit village au Sénégal. Vous êtes arrivé à Paris dans la région parisienne. Et est-ce que c'était pas trop difficile de s'adapter? Parce que c'est vraiment un changement de culture. Je crois que même quand vous étiez au Sénégal, vous pensiez que tout le monde était musulman, par exemple, autour de vous. Vous arrivez à Paris. Comment vous avez fait pour vous adapter? Est-ce que c'était naturel pour vous? Est-ce que ça a été le grand écart? Comment ça s'est passé, votre arrivée en France?
Alors, ça a été un déchirement et en même temps un enrichissement. Déjà, pour partir de Dakar à Paris, nous avons pris l'avion. C'est l'histoire que j'ai racontée hier. Le commandant de bord qui nous annonce, voilà, qu'on est le 14 septembre 1984, il est 23h59. Nous allons décoller, voler à 800 km à l'heure, 15 000 mètres d'altitude, et que nous allons arriver le lendemain à 6h30. À Paris, il va pleuvoir, il fera 14 degrés. Intrigué donc par la précision des propos du commandant, je demande d'aller le voir en plein vol, ce que font les hôtesses. Je vais aller le voir, donc je me retrouve dans le cockpit. Et là, je dis au commandant comment ça se passe. Il m'explique, voilà, tous les tableaux, tous les points qu'il y a, etc. Donc, je lui mets en contradiction en lui disant, mais c'est pas possible. On ne roule pas à 800 km à l'heure puisque l'avion ne bouge même pas. Et puis, je vois pas comment vous pouvez vous permettre de dire ça. On en a bien rigolé. Et puis, effectivement, on est arrivé à Charles de Gaulle à 6h30 du matin. Il faisait 12 degrés, il pleuvait. Et je suis allé lui dire, mais comment ça se fait que vous dites tout ça alors que vous n'avez pas dit Inch'Allah? Et pourtant, on est arrivé à bonne destination. Et j'arrive donc à Paris. Ce qui m'a intrigué le plus, c'est l'enchevêtrement des autoroutes, des routes, les voitures, la lumière en plein jour. J'avais jamais vu de lumière avant. Je vois tous les gens qui courent. Vous courez de partout. Ça court, tout le monde court. Et puis, j'ai été accueilli par mon cousin qui m'a amené sur l'autoroute et nous avons pris la route de Mantes-la-Jolie. Et là, j'ai reconnu la Seine, j'ai reconnu la Tour Eiffel. Et puis, tout au long de la route, j'ai vu des enseignes de, des usines Peugeot à Poissy et des usines Renault à Flins-sur-Seine. Et là, j'ai compris quand même que j'étais en France. Et j'arrive à Mantes-la-Jolie. Alors, c'est une ville de la banlieue parisienne. 47 nationalités, 25 000 ou 26 000 ouvriers qui travaillaient chez Renault, une ville dynamique, associative, plein de dynamisme associatif. Et là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour le dialogue.
D'accord. Alors, vous nous avez raconté que vous êtes arrivé à Paris, vous avez fait vos études, vous avez été diplômé. Ensuite, vous avez été aussi CPE dans une école catholique à côté de Versailles. Alors, comment, quand on est sénégalais musulman, on est CPE dans une école catholique à Versailles? C'est quand même le grand écart. Donc, vous avez une sacrée faculté d'adaptation.
Oui, mais quand on a entendu les propos de d'Agnès hier sur la Pira, j'ai compris pourquoi j'ai eu cette faculté d'adaptation. Mon pays, le Sénégal, son premier président est Léopold Senghor. Agrégé de grammaire, premier noir agrégé de grammaire, académicien, député, poète, président poète. Et c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé, qui s'est beaucoup inspiré de la Pira, avec lequel il a beaucoup travaillé sur le dialogue et sur la paix. C'est hier que je l'ai compris, vous vous rendez compte? Et donc, Senghor, chrétien, qui dirige un pays qui a 95% de musulmans. Donc déjà, tout petit, j'ai baigné dans la tolérance, dans la rencontre et le dialogue avec les autres. Mais c'était la théorie. C'est en France que j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres couleurs, d'autres cultures. Et tout naturellement, arrivé à Mantes-la-Jolie, j'ai été dirigé vers la communauté chrétienne en la personne du père Baudouin de Beauvais et du père Maurice Egerman, paix à son âme. Et c'est eux, à l'occasion d'une cérémonie douloureuse, c'est un papa malien qui avait perdu sa fille, qui cherchait une salle pour les condoléances. Donc voilà, j'étais là, peut-être au bon moment. J'ai été un facilitateur et à partir de ce moment, j'ai eu un coup de foudre pour la communauté chrétienne. Alors pourquoi ces pays dans un collège catholique? C'est parce que pendant mes études, je cherchais un petit boulot. J'ai écrit à 50 collèges et le collège lycée Saint-Exupéry a été le seul à me répondre. Et là, c'était la rencontre. Et là, j'ai rencontré donc cette communauté soudée, portant des valeurs qui sont les miennes et avec lesquelles j'ai appris beaucoup de choses. Bien sûr que je me suis adapté, mais c'est parce qu'aussi tout était dans la qualité de l'accueil de cette communauté. Et aujourd'hui encore, ce qui me porte moi, ce sont les valeurs chrétiennes, alors que je suis musulman pratiquant.
Merci Yaya. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici, au Vivre Ensemble à Cannes, tous les auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter ce dialogue? Est-ce que vous avez des petits trucs qui peuvent nous aider dans le quotidien pour faciliter la rencontre avec l'autre, l'autre différent, l'autre qui est à côté de nous?
Alors, quand je suis arrivé à Cannes, et bien avant, j'avais une autre image de cette ville. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu autre chose. Hier, j'étais vraiment émerveillé de voir autant d'énergie, autant d'idées, autant de personnes mues par la même volonté d'aller de l'avant et d'aller ensemble et d'aller le plus loin possible. Donc, vous avez tout en vous pour non seulement continuer le dialogue, mais l'approfondir et le rendre contagieux. C'est Follereux qui avait dit que nul n'a besoin d'être heureux tout seul. Donc, ici, vous avez tous les moyens pour... Alors, on va parler simple. Le dialogue, c'est au quotidien. On le vit. Simplement, à l'année, nous avons plein de choses que nous partageons. Nos fêtes chrétiennes, juives, musulmanes, nos fêtes familiales, nos fêtes sociales au quotidien. Un petit bonjour, un regard. Par exemple, moi, concrètement, comment on fait? Pendant le ramadan, ben, nous allons partager la soupe avec nos voisins. Et c'est comme ça qu'un jour, c'est un couple de voisins qui venait de s'installer. En leur offrant la soupe, il nous demande de quelle nationalité on est. Bah, je dis j'étais breton, mais quand il a vu ma couleur, il me dit monsieur, soyons sérieux. Et donc je dis que j'étais sénégalais. Et il me dit mais attendez, on vient du Sénégal. Vous voyez, on vient du Sénégal. Et là, ça suffit. Je vous passe les détails. On a échangé les cartes de visite et il se trouvait aussi qu'on avait les mêmes enfants dans la même école. Et voilà, c'est comme ça que le dialogue s'est tissé. Donc vous voyez, dans le regard, dans une petite parole, un petit sourire, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin de sortir d'HEC pour créer du dialogue. Simplement, naturellement, comme on est. Et toutes les opportunités sont bonnes pour nous faire rencontrer. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup.
Voilà, alors tout à l'heure, je vous ai présenté avec plein de titres. Vous êtes aussi membre fondateur du GIP. Le GIP, rappelez-moi, c'est le groupe interreligieux pour la paix.
Tout à fait.
Voilà, donc très en lien avec le Vivre Ensemble à Cannes. Et donc, vous œuvrez aussi dans la... autour de Versailles, avec ce groupe interreligieux pour la paix, vous retrouvez aussi avec des personnes de différentes religions.
C'est ça. Alors, le groupe interreligieux pour la paix 78 a été né dans les années 80, dans le sillage donc et les conseils de l'évêque de Versailles, Jean-Charles Thomas, que j'avais rencontré aussi à Mantes-la-Jolie dans le cadre des Journées mondiales, les JMJ. Donc, c'est tout naturellement qu'on s'est constitué un groupe, mais notre spécificité, c'est que nous avons tenu d'abord à apprendre à nous connaître, un peu comme vous, à nous connaître, à faire des repas chez nous, parce que nous voulions nous attaquer à deux ou trois problèmes. Le premier, ce sont les interdits alimentaires. Le deuxième, ce sont les questions bioéthiques. Et le troisième, c'est comment on peut... alors qu'on est d'origine, de culture et peut-être de traditions différentes, comment ensemble on peut vivre dans un pays qui a une histoire judéo-chrétienne et qui nous a accueillis. Donc nous avons testé entre nous si le vivre ensemble était possible. Et je peux vous dire qu'il l'est. Quand nous allons chez Sovod Ben-Zekri, qui est le président de la communauté juive des Yvelines, quand les amis viennent chez moi ou que nous allons chez nos amis chrétiens, eh bien on s'adapte. On s'adapte sur l'heure, parce que moi j'ai un petit souci avec ça. On s'adapte sur la nourriture. Il n'y a pas de questions tabous. On se pose toutes les questions et c'est à partir des éléments de réponse que nous avons obtenus nous-mêmes et puis d'avoir aussi consolidé nos convictions, notre groupe. C'est là où nous avons proposé, donc, avec un projet pédagogique, nos services aux écoles. Bon, on a commencé par l'enseignement catholique, c'est tout naturellement normal. Et ensuite, aujourd'hui, nous avons un agrément et nous intervenons dans les écoles publiques avec donc des questions d'ordre pédagogique que nous travaillons en lien avec les professeurs d'histoire-géographie ou de philosophie. Donc, vous voyez, notre message, il passe très 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 bien aujourd'hui au niveau des jeunes, au niveau de l'enseignement. Et c'est quelque chose qui manquait. Et c'est pour ça que nos amis d'ici, ils vont aussi pouvoir le faire. Et c'est tout à fait normal que ce soit donc votre groupe, votre association qui porte ce flambeau.
Alors merci beaucoup Yaya. Hier aussi, lors de votre intervention, vous nous avez fait un petit cadeau, une petite idée, une petite intuition que sur le Vivre Ensemble à Cannes, que des fois on appelle VEAC. Alors vous avez peut-être changé les lettres de place, mais je vous laisse dire à nos auditeurs ce que vous nous avez proposé hier.
Alors, parce que moi, je suis tombé amoureux de cette ville de Cannes. Je suis tombé amoureux de ce groupe qui m'a accueilli. Et je ne savais pas, à vrai dire, quoi vous proposer, mais j'avais envie de vous proposer une idée simple, réalisable, et qui puisse aussi fédérer toutes les initiatives qu'on a vues hier. Vous avez une idée du nombre d'associations, de groupes alors, vous voulez que je vous dise le nombre exact? Je vais vous le faire comme avec le maire de mon village. Allez, hier, il y avait 150 000 personnes dans cette salle. Soyons sérieux. Donc, je me suis dit, à Cannes, on aime des tigres. Ici, en tout cas, dans ce groupe, on aime les tigres. J'ai vu le VEAC. J'ai vu le GIV. Ah ben, je me suis dit, ce qu'il faut, c'est organiser les assises à Cannes. Alors, donc, les assises à Cannes, ça va être les assises du vivre ensemble à Cannes. Avec. Vous savez, on est dans un monde où il faut faire avec. Il faut vivre avec. Il faut travailler avec. C'est Carol Dan, une assistante sociale d'origine américaine, une psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Travailler dans les quartiers difficiles ». Avec les quartiers difficiles. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, je propose au groupe de travailler sur les assises, la mise en place des assises du vivre ensemble à Cannes dans les années à venir. Et que tout le monde s'y mette pour arriver à cette œuvre.
Alors vraiment un grand, grand merci. Alia, on se termine avec ce avec, avec, ensemble. Alors on pourrait vous écouter encore des heures. Alors je propose à nos auditeurs, pour mieux vous connaître, s'ils veulent se procurer votre livre Un petit baobab pour vivre ensemble, pour qu'on se connaisse mieux. Un grand merci pour tout ce que vous nous avez apporté dans le Vivre Ensemble à Cannes. Et puis on espère peut-être une fois vous retrouver sur le plateau. Et en tout cas, on vous accueille quand vous voulez à Cannes. Merci beaucoup Yaya.
Merci Claire, merci à tout le groupe, merci à tous vos auditeurs. Je peux vous dire que je reviendrai.
Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Croyants ensemble vers la paix. Au revoir.